Lille Info, comme chaque mercredi, à 17h30 jusqu'à 18h. Nous allons parler aujourd'hui de calcul scientifique. Alors, tout le monde calcule plus ou moins. On a des outils plus ou moins perfectionnés, des calculettes, des calculatrices électroniques, des petits ordinateurs aujourd'hui. Non, on va faire un grand pas. J'allais dire un grand pas dans l'humanité. C'est peut-être une question qu'on posera tout à l'heure. Voilà, donc ils sont trois chercheurs de l'Université de Lille, donc qui vont nous présenter un petit peu ce thème du calcul scientifique, voir les enjeux de ce calcul, voir en quoi l'université correspond à une attente particulière, et donc voir comment tout cela se développe dans notre région et aussi à l'échelle de la France, voire de l'Europe. C'est tout le thème de cette émission qu'on va passer maintenant donc, avec Emmanuel. Donc, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Avec Christophe Bèze. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et Noureddine Melhab.
Bonjour.
Emmanuel Creuset, donc vous êtes le premier à ma droite.
Oui, tout à fait.
On va démarrer donc peut-être un peu avec vous, dire que cette recherche sur l'université, évidemment, les mathématiques, c'est important. Dans les mathématiques, ou peut-être avec les mathématiques, il y a le calcul scientifique. Donc voilà, c'est un enjeu important, que ce calcul scientifique et les moyens qui sont mis à disposition de l'université.
Tout à fait. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par définir un petit peu ce qu'on entend par calcul scientifique. Parce que comme vous le mentionniez tout à l'heure, les moyens de calcul, c'est un petit peu divers et varié. Donc à ma droite, Christophe Bèze qui peut-être peut nous donner quelques éléments sur une définition de cette nature-là.
Oui, donc en fait, il faut bien comprendre que le calcul scientifique, ça peut... Pour les différents domaines d'application, avoir une définition différente. Donc on va peut-être essayer de donner une définition globale qui répondra pas aux attentes de chacun, mais on peut définir le calcul scientifique comme l'utilisation d'un ordinateur, peut-être pas la calculette dont vous parliez tout à l'heure, en tant qu'outil de travail pour une discipline scientifique quelconque. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être d'analyser les différents termes qu'on entend par calcul scientifique. Donc dans calcul, on peut définir le calcul comme une suite d'opérations élémentaires. Donc depuis le début de l'humanité, on s'intéresse à calculer des opérations élémentaires. Là, le gap est devenu important parce que les ordinateurs qu'on a actuellement à disposition ont changé cette échelle. Et donc les calculs qu'on peut réaliser maintenant sont devenus tout simplement extraordinaires. Et la limite est sans doute pas atteinte, puisque la limite physique au calcul, c'est la vitesse de la lumière. Donc on n'est pas arrivé à cette limite. Et alors pourquoi scientifique? Pourquoi on oppose le calcul scientifique à un calcul qui ne serait pas scientifique? Eh bien, par exemple, on peut avoir du calcul qui est du calcul comptable, la comptabilité d'une entreprise. Et donc ici, on oppose le calcul scientifique à ce calcul-là en disant qu'il doit servir une démarche scientifique pour aider à l'élaboration d'une théorie, à comprendre des modèles physiques, ou confronter à la réalité. Ou alors, quand l'expérience devient quelque chose de trop lourd, utiliser cet outil-là pour aider à la prédiction et à l'expérience.
Voilà. Alors, peut-être un petit exemple qui pourrait illustrer un peu ce que Christophe vient de dire. Prenons l'image de la conception d'un véhicule automobile. Bon, un point important pour les constructeurs automobiles, c'est évidemment la consommation énergétique du véhicule, hein, qui est directement corrélée à ce qu'on appelle le coefficient de traînée. Alors avec un phénomène comme ça, dans une démarche de calcul scientifique, on a d'abord besoin de quelqu'un qui maîtrise des aspects physiques et qui va essayer de nous expliquer comment, par exemple, un écoulement d'air va se développer autour de tel type de véhicule. Ça, c'est une première démarche du calcul scientifique qu'on appellera démarche de modélisation. Cette démarche va conduire en général à un jeu d'équations, et ces équations sont de nature très complexe. Et donc là, c'est plutôt, on va dire, entre guillemets, les mathématiciens qui vont s'emparer de ces équations pour pouvoir essayer eh bien, de décrire de façon plutôt qualitative ce fameux écoulement d'air, et puis aussi de fournir des algorithmes de calcul qui vont être capables de donner une appréciation quantitative du phénomène, et donc d'évaluer ce coefficient de traînée. Ça, c'est la deuxième étape qu'on qualifierait peut-être d'analyse et d'approximation. Et puis entrent en jeu alors les informaticiens, à qui on va demander de pouvoir faire en sorte que cette impressionnante quantité de calcul puisse être exécutée avec les outils qui sont actuellement disponibles et qui n'auraient pas pu l'être il y a encore 10 ans, par exemple.
Donc dans cet exemple-là, on peut parler aussi de l'aéronautique. On voit bien que le calcul sert aussi à la réduction des consommations d'énergie, donc au développement durable.
Exactement, c'est tout à fait une application. L'aéronautique est une grande application du calcul scientifique. Et puis Christophe, tout à l'heure, parlait d'expériences qui étaient trop lourdes à mener. On peut penser par exemple au nucléaire, pour lequel certaines expériences ne peuvent tout simplement pas être effectuées et pour lesquelles on a besoin du calcul scientifique pour obtenir des résultats qui ne le seraient pas sinon.
Est-ce qu'on peut imaginer aussi des réductions de pertes d'énergie qu'on peut résoudre par le calcul ?
On va dire que globalement, tout phénomène physique est tout à fait abordable par le calcul scientifique. Et donc, de façon générale, oui, une réponse.
Aujourd'hui, la réduction d'énergie est un problème, est un défi scientifique. Hein, mm-hmm. C'est un thème de recherche à part entière. Nous, dans notre équipe, par exemple, on utilise des techniques d'optimisation combinatoire, justement pour pouvoir à la fois essayer d'améliorer la performance de l'exécution des applications et dans le même temps minimiser la consommation d'énergie des machines. Donc, c'est effectivement une thématique de recherche à part entière aujourd'hui. Et c'est un des défis majeurs en fait, des supercalculateurs aujourd'hui.
Alors, ces supercalculateurs, est-ce qu'ils sont nombreux en France? Comment vous fonctionnez ces machines? On les trouve où? Elles servent à qui? Pourquoi? Pour qui?
Alors, je vais répondre à cette question. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord donner un petit peu les grandes classes de supercalculateurs aujourd'hui. Il y en a exactement trois. Il y a ce qu'on appelle les machines massivement multiprocesseurs ou multicœurs. Ce sont des machines qui intègrent plusieurs milliers de processeurs ou de cœurs de calcul. Comme exemple, je peux citer la machine Blue Waters d'IBM. C'est une machine à 200 000 cœurs de calcul. La deuxième catégorie de machines, ce sont les machines hybrides. Ce sont des grappes de processeurs dotés d'accélérateurs graphiques tels que les GPU. Tels que les GPU, merci. Les accélérateurs graphiques, ce sont des coprocesseurs ou des processeurs spécialisés qui servent pour justement accélérer les calculs. Dans le passé, ils ont été utilisés en fait dans le domaine de l'informatique graphique et de la vidéo. Aujourd'hui, leur utilisation est étendue aux autres domaines d'application, notamment le calcul scientifique. Les GPU permettent d'une part donc d'améliorer la performance de l'exécution en accélérant les calculs. D'autre part, ce type de ressources sont moins coûteuses en termes de consommation d'énergie. On parlait tout à l'heure de consommation d'énergie et donc sont moins polluantes. Donc la troisième catégorie de machines regroupe en fait les grilles informatiques. Donc contrairement aux machines précédentes, c'est-à-dire les machines multicœurs, massivement multicœurs ou multiprocesseurs et les machines hybrides, les grilles informatiques sont composées les machines hybrides et les machines massivement multicœurs sont généralement rangées dans des armoires et souvent placées dans une même salle. À l'inverse, les grilles de calcul sont composées de ressources qui sont réparties à l'échelle d'un pays, d'un continent, voire à l'échelle planétaire. Donc aujourd'hui, on distingue deux types de grilles. Il y a ce qu'on appelle les grilles de recherche ou expérimentales. Ce sont des grilles utilisées par les informaticiens. Elles sont destinées en fait à développer de nouveaux outils logiciels pour l'exploitation des grilles de production. Donc l'autre type de grilles. Comme exemple ici, je peux citer grille de 5000. Donc c'est la grille française qui est composée de plus de 5000 cœurs de calcul répartis sur 9 villes. Lille fait partie de ces villes-là. Donc les ressources du grille de 5000 sont interconnectées par le réseau Rhin-la-Terre. C'est un réseau haut débit à 10 gigabits par seconde. Donc le deuxième type de grille, donc c'est les grilles de production ou les grilles de non-informaticiens qui, elles, sont destinées à produire des résultats scientifiques dans différents domaines d'application, notamment l'environnement, la santé, l'aéronautique, etc. Donc comme exemple, je peux citer donc, la grille européenne EGI. C'est une grille qui est composée de 150 000 cœurs de calcul, donc répartis sur 55 pays. Cette grille est utilisée aujourd'hui par 14 000 utilisateurs qui déploient environ 330 000 jobs ou expériences par jour.
Voilà, donc
en fait, Lille 1 va être connectée à cette grille de production le mois prochain.
Donc c'est un événement en fait que les universités travaillent non seulement ensemble au niveau de la recherche, mais aussi mettent en commun des moyens, chacune d'entre elles ayant des ordinateurs, des calculateurs qui se mettent en réseau en fonction des besoins qui sont exprimés et une concertation qui existe pour savoir qui peut utiliser à un moment donné toute cette ressource qui se fait au niveau national, mais aussi maintenant au niveau européen.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Les grilles sont faites pour ça, sont faites pour mettre en commun en fait, des ressources réparties à l'échelle d'un pays, d'un continent ou à l'échelle planétaire et de mutualiser leur utilisation, de les partager. Mm-hmm. Donc c'est le principe même des grilles de calcul.
Alors, on voit bien que cette politique, on va dire, au moins nationale, débouche aussi sur une politique européenne. Donc les décisions de mise en réseau se décident à un niveau supranational.
Là, effectivement, je suis obligé de parler un petit peu du contexte européen. Effectivement, il y a un accord de partenariat qui s'appelle PRESS, qui a été signé en 2007 par 14 pays européens. Donc le but de ce partenariat est de mettre en place une infrastructure de recherche dédiée au calcul intensif du meilleur niveau mondial. Il s'agit plus exactement d'acquérir 3 à 5 machines de classe pétaflopique. Et donc parmi les 14 pays ici, il y a 5 pays principaux dont la France fait partie. Et 9 pays généraux. Donc le rôle des pays principaux, justement, c'est d'accueillir ces machines pétaflopiques et d'en assurer la gouvernance. En termes de grille, donc la grille européenne EGI, qui est partagée, qui est utilisée par plusieurs pays, a été financée à hauteur de 100 millions d'euros dans le cadre de 3 projets européens, EGI 1, EGI 2 et EGI 3. EGI 3 arrive à son terme en 2010. Donc là, l'Europe vient de mettre en place une structure pour pérenniser cette infrastructure. Donc cette structure s'appelle EGI, donc European Grid Initiative. Son siège est à Amsterdam. Et donc cette structure, elle a un représentant de chaque pays qui s'appelle une NGI, National Grid Initiative. Et le siège de la NGI française est à Orsay.
Voilà, donc on a bien compris que les efforts sont organisés, sont rentabilisés par rapport à des projets européens, la responsabilité de chaque État à fournir à la fois les matériels, les moyens et puis bien sûr aussi les hommes qui mettent en œuvre tous ces processus.
Oui, effectivement. Dans le passé, en fait, toutes ces ressources ont été financées par la Commission européenne. Et désormais, c'est à partir de 2010, ces ressources seront fournies, enfin, les ressources et les compétences seront fournies par les différents pays qui contribuent, en fait, à la pérennisation de cette infrastructure.
Est-ce qu'on peut dire que ce calcul scientifique, c'est la nouvelle force de frappe de l'Europe contre, vous pourrez me dire, quel est le concurrent en direct ?
Oui, effectivement. En France, en 2005, on a pris conscience en fait de l'importance donc stratégique du calcul scientifique et surtout du retard que la France a accusé par rapport non seulement aux États-Unis mais aussi par rapport à certains pays européens comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Et donc, elle a demandé à deux chercheurs, Eon et Sartorius, de rédiger un rapport de prospective sur le calcul scientifique en France. Donc, dans le rapport qui a été donc adressé au ministère, donc il y a 8 recommandations, dont la troisième dit qu'il faut restructurer les acteurs du calcul intensif. Donc il y a un mouvement de restructuration qui a été initié. Donc cette recommandation, elle a conduit à la création de 3 instances. Donc la première instance, c'est GENCI. Donc c'est Grand Équipement National de Calcul Intensif. Donc c'est une société civile dans laquelle le ministère est représenté à 49%, le CNRS à 20%, le CEA à 20%, les universités à 10% et l'INRIA à 1%. Donc la deuxième instance est un comité stratégique du calcul intensif. C'est un comité qui est composé d'experts et qui conseille d'experts en calcul scientifique et qui conseille GENCI en matière de calcul intensif. La troisième instance, donc c'est l'Institut des Grilles qui a été créé par le CNRS en 2007. Donc le rôle de ces instances, c'est de promouvoir et mieux structurer le calcul intensif et les grilles dans la recherche fondamentale et industrielle et de participer et contribuer à l'organisation de l'espace européen à travers donc, le projet PRESS et à travers la structure EGI en matière de grilles.
Alors, pour ces scientifiques, donc, ces mathématiciens, ces gens qui calculent d'une manière générale, effectivement, il y a de nouveaux comportements, je suppose. Avant, on partageait un espace, un labo, des idées. Maintenant, en plus, on partage du matériel, mais pas seulement en local.
Oui, tout est virtuel en fait. Il faut savoir qu'il y a des systèmes de réservation sur notamment sur la grille française Grid 5000. Donc les chercheurs qui veulent accéder en fait aux ressources de Grid 5000 sont obligés de passer par le système de réservation. Et donc c'est ça qui régit un petit peu le fonctionnement de la grille, qui permet d'assurer un partage équitable des ressources entre les chercheurs concernés par le calcul intensif.
Alors, donc Lille, l'université de Lille 1 est dans le peloton de tête maintenant, on va dire, de ce calcul scientifique, ou voudrait le devenir, et qu'est-ce qui lui manquerait pour y arriver ?
Oui, effectivement, on ne peut pas dire qu'on est dans le peloton de tête, mais on est très bien classé par rapport aux autres universités, surtout depuis qu'on a acheté en juin dernier une machine, c'est la machine BlueJean L. C'est une machine à 2048 processeurs et c'est une machine d'une puissance de calcul de 5 teraflops. Donc avec ça, on a quand même rattrapé un petit peu le retard. Mais je dirais que de manière générale, donc il y a une dynamique de restructuration qui a été initiée depuis 2007 au niveau européen et national. Donc dans le rapport du comité stratégique du calcul intensif qui a été fait en décembre 2008, il est mentionné qu'il est important d'effectuer cette restructuration au niveau des universités, parce que dans les universités, on trouve finalement un nombre très important de ressources. C'est le cas par exemple à Lille 1, qui dispose avec ses partenaires d'un potentiel important en calcul intensif, en termes de compétences et de moyens matériels et logiciels. Mais force est de constater que ces moyens et compétences sont répartis entre les laboratoires de l'université, l'INRIA et le CRI, et sont gérés de manière indépendante et non coordonnée. Donc, faute d'organisation, la visibilité du site de Lille dans le domaine du calcul scientifique n'est pas à la hauteur de son potentiel. C'est pourquoi nous avons proposé un plan pluriformation sur le calcul scientifique qui est inscrit dans le prochain quadriennal de l'université. Enfin, le prochain, on y est. Donc c'est 2010-2013.
Donc voilà. Alors, ces mises en réseau, on va dire, s'accompagnent aussi de rencontres, je suppose, pour remettre tout le monde d'accord. Comment ça se passe, dans les faits ?
Mais se mettre d'accord sur quoi ? Sur
effectivement, les protocoles
Oui, si je prends l'exemple de Grid 5000, dans Grid 5000, il y a un comité technique qui est composé d'ingénieurs experts en grille, qui sont basés sur les sites qui sont connectés à Grid 5000. Donc sur Lille, par exemple, on a un ingénieur expert qui gère en fait le nœud lillois. Donc ce comité technique s'occupe en fait de développer des outils logiciels pour faciliter l'exploitation de la grille et de résoudre tous les problèmes techniques liés donc, à l'exploitation de la grille. À côté de ça, il y a un comité scientifique dont je fais partie et qui s'occupe un petit peu du volet scientifique de la grille, du grille de 5000, parce que ça ne suffit pas d'avoir des ressources, il faut de la production scientifique. Donc le comité scientifique a pour rôle d'organiser des événements scientifiques autour de la grille et d'encourager en fait la production scientifique en termes de publications, en termes de thèses, etc.
Alors, il y a des journées de rencontres aussi physiques entre les chercheurs, les gens qui travaillent dans les labos et qui veulent justement s'approprier collectivement cet outil.
Oui, c'est quelque chose qu'on veut maintenant organiser de manière régulière dans le cadre du PPF, calcul scientifique. Effectivement, on a commencé à faire ça en décembre, au mois de décembre dernier. J'ai organisé les journées calcul intensif et grille informatique à Lille. Donc l'objectif de ces journées, justement, c'est d'informer les chercheurs de Lille 1 sur les ressources de calcul dont on dispose et en fait de favoriser l'échange d'idées et de pratiques du calcul scientifique. Après, au niveau national, effectivement, il y a d'autres événements qui sont organisés. Il y a d'ailleurs un événement que j'organise moi-même au printemps prochain, donc au mois d'avril, du 6 au 10 avril. Donc il s'agit de l'école Grid 5000 qui va regrouper une centaine de participants qui vont venir en fait présenter des retours d'expérience, des résultats scientifiques sur l'utilisation de Grid 5000.
Alors là, on a bien compris l'organisation pour les chercheurs. Est-ce que ça peut intéresser quand même des étudiants, ce projet?
Et c'est une très bonne question. Et effectivement, quand on a mis en place Grid 5000 en 2005, donc il faut savoir que Grid 5000, c'est une infrastructure qui est dédiée à la recherche scientifique sur les grilles. Donc on s'est posé la question en 2005 s'il ne fallait pas l'ouvrir à l'enseignement. Donc la réponse était non. Donc c'est une décision qui a été prise par le comité de pilotage dont je faisais partie et dont je fais toujours partie. Donc on n'a pas voulu tout de suite donner accès aux étudiants parce qu'on avait peur justement pour des problèmes de sécurité au sein de la grille. Mais je me suis lancé dans une expérience en 2006. Donc j'ai pris la responsabilité sans consulter le comité de pilotage d'ouvrir en fait le Grid 5000 à l'enseignement. Donc dans le cadre du cours sur le grid computing que j'ai mis en place ici à Lille, donc on a dispensé en fait des travaux pratiques sur Grid 5000. Donc à l'issue de cette expérience, on s'est rendu compte que finalement il n'était pas nécessaire d'avoir peur des étudiants. Et donc j'ai remonté un retour d'expérience au comité de pilotage. Et à partir de ce moment-là, à partir de 2006, on a décidé d'ouvrir Grid 5000 à l'enseignement. Donc depuis 2006, dans le cadre du cours de Grid Computing en master informatique, les Grid 5000 est utilisé pour les travaux pratiques.
Alors, parlons maintenant de ce master. Donc, comment on forme les gens au calcul scientifique et à partir de quel niveau?
Alors, il est clair que donc Nourdine a expliqué un petit peu ce qui tourne autour de Grid 5000. De façon plus générale, on ressent un fort besoin aussi d'avoir des compétences humaines autour du calcul scientifique et donc de former des étudiants capables d'utiliser toutes ces ressources. Alors ça, c'est assez criant parce que dans nos laboratoires, on a souvent des sollicitations de laboratoires extérieurs, de personnes qui maîtrisent souvent l'un des aspects du calcul scientifique, mais pas l'ensemble du spectre, et donc qui nécessitent des interactions avec d'autres laboratoires. Alors c'est dans ce cadre-là que donc, l'Université Lille 1 va ouvrir en septembre prochain, 2010, un Master 2, une deuxième année de Master de calcul scientifique, qui se veut un master international. L'ensemble des enseignements en particulier sera dispensé en anglais. L'objectif étant évidemment de recruter aussi sur l'extérieur, mais aussi de pouvoir envoyer nos étudiants dans des structures un peu partout, donc en Europe et ailleurs aussi à l'international. Alors, l'idée générale de ce master, c'est de doter les étudiants de ces trois compétences qui sont dans le spectre, on va dire, donc d'une discipline ou de plusieurs disciplines scientifiques connexes, de mathématiques et d'informatique. Et ces étudiants ont vocation à provenir de l'ensemble, notamment des masters 1 scientifiques de l'Université Lille 1 ou d'une formation donc, de niveau équivalent. L'idée étant que chacun va arriver avec ses propres compétences et va apprendre les autres compétences propres au calcul scientifique.
Oui, en fait, la difficulté liée à cet enseignement, c'est qu'on l'a vu, on l'a voulu pluridisciplinaire. C'est-à-dire que quand on a monté le plan pluriformation avec Noureddine, on s'est bien rendu compte qu'il y avait différents acteurs du calcul scientifique sur l'université. Ce n'était pas limité à l'informatique et aux mathématiques, et ça s'étendait à toutes les disciplines, comme je l'ai dit en introduction. Et donc, on a voulu faire cette formation pour qu'elle soit accessible à tous les étudiants, d'où qu'ils viennent, de n'importe quelle discipline de l'université. Ce qui a fait que ça a rendu les choses assez difficiles pour concevoir la formation, et en particulier, quand on est un étudiant de mathématiques, on n'a plus nécessairement les souvenirs nécessaires pour comprendre des problèmes venant de la physique, de la mécanique, de la biologie. Et réciproquement, quand on est un étudiant d'informatique, on s'intéresse au calcul scientifique, on n'a pas nécessairement les compétences mathématiques nécessaires. Et donc, dans le plan de formation qu'on a imaginé, il faut voir qu'il faut mettre tous les étudiants à un niveau équivalent avant de pouvoir commencer des cours vraiment spécifiques. Donc l'organisation de ce master, donc on parle bien d'un master 2, donc c'est à partir de la cinquième année de formation universitaire, est accessible à tous les étudiants qui ont eu un master 1 de l'université, et donc comme l'a rappelé Emmanuel, à d'autres étudiants qui proviendraient d'universités extérieures qui justifieraient de ce niveau-là. Une fois que ces étudiants auront été mis à niveau, on les formera sur les outils mathématiques nécessaires au calcul scientifique, aux outils informatiques pour le calcul intensif, sans oublier que ces étudiants pourront soit travailler, bien entendu, dans des laboratoires de recherche, mais qui sont aussi destinés à pouvoir travailler dans les entreprises, et donc ils auront un apprentissage sur la gestion des entreprises. Et comme c'est un master qui se veut international, ça sera des gestions d'entreprises internationales et du droit du travail.
Voilà. Donc ce master va démarrer à la rentrée ?
Au mois de septembre 2010, oui.
D'accord. Donc on peut s'inscrire à partir de quand ?
On peut donc,
dès maintenant,
donc sur Internet, sur le site web de l'UFR de mathématiques de l'Université Lille 1. Les dossiers de candidature sont en ligne.
Il suffit d'aller dans l'onglet formation et vous trouverez à la fois pour les anglophones et pour les francophones deux types de dossiers de candidature.
Voilà, je pense que les auditeurs en savent un peu plus maintenant sur la complexité du calcul scientifique et ses enjeux surtout. Merci donc Noureddine Mellab, merci Christophe Besse et Emmanuel Creuset. Bonne journée.
Bonne soirée.
Merci. Au revoir.
Au revoir.